m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je viens avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie,
bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme, au secours.
Voilà, bah, c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bonjour chers amis, bienvenue sur Radio Courtoisie, bienvenue dans Restons Courtois, où nous recevrons ce soir des gens différents comme Paul Beaupère, Renaud Camus et Loïc, qui est bénévole chez SOS Calvaire. Il y a un lien commun, c'est qu'en fait tous vivent en France et tous sont capables de nous raconter des Français et des jours de France, non pas le magazine de Monsieur Dassault, mais les vrais jours des vrais Français, ou presque, puisque Paul Beaupère nous racontera les histoires de Marie-Thérèse, vieille dame respectable, amatrice de bac et de chant choral à la messe le dimanche et qui, à ses heures perdues, se transforme en impitoyable tueur à gages en explosant la cervelle de tous les vilains que lui désigne un commissaire de police marron. C'est un peu compliqué, Paul nous l'expliquera. Mais tout de suite, je tiens à vous rappeler que vous pouvez nous écouter sur X, qu'évidemment vous pouvez nous écouter à partir du site internet, mais surtout que vous, miracle de la radio, il suffit de tourner le bouton, vous pouvez nous écouter sur les ondes. Bonjour Paul Beaupère.
Bonjour Richard.
Alors, 12 balles pour Marie-Thérèse, c'est un roman qui est paru chez City Éditions et dont la couverture va s'afficher pour ceux qui pourront nous regarder sur YouTube. Voilà, 12 balles pour Marie-Thérèse, c'est un roman absolument fascinant. Juste avant qu'on en parle pendant une petite demi-heure, Marie-Charlotte Dubourg-Blanc va dresser le portrait du teckel.
C'est pas exactement ça, mais vous avez quand même un peu raison, Richard. J'avais envie de vous parler de l'avenir de la lecture en France. Sujet, selon moi, passionnant, mais aussi un poil dramatique.
Voilà, poil, t'es quel.
Voilà. La lecture, c'était cette activité que l'on faisait avant que les vidéos de chats sur Internet nous obsèdent, que les TikTokers s'improvisent tous experts en géopolitique, ou que Paris soit envahi par les teckels. Alors attention, le teckel est un chien téméraire, c'est un bon chasseur, très mignon, et c'est aussi la photo de profil Instagram choisie par Paul Beaupère, notre invité. Mais bon, le teckel n'est pas vraiment le sujet de cette chronique, donc je vais à nouveau vous reparler de la lecture. Selon le baromètre du Centre National du Livre, seuls 45% des Français lisent tous les jours, sur papier ou numérique, et c'est du jamais vu en 10 ans. Un chiffre catastrophique. Alors, la lecture est-elle en train de crever? Est-ce qu'elle a pris une des 12 balles de Marie-Thérèse, héroïne du dernier roman de Paul Beaupère, notre invité romancier qui aime les teckels? Je ne crois pas, mais disons que son poumon droit s'essouffle. Celui de la lecture, hein, pas celui du teckel de Paul Beaupère. Donc le français lit moins, mais en plus de ça, chez les moins de 25 ans, le temps d'écran monte en flèche. Et au milieu de tout ça, il y a des génies. Ceux qui, de la main droite, tiennent un livre et de la main gauche, font défiler les réseaux sociaux. C'est l'apothéose de la déconcentration, le summum de la dispersion, et ça donne comme résultat une incompréhension totale. Ben oui, forcément. Si vous regardez une vidéo d'un Golden Retriever en train de faire du patinage artistique, vous ne retiendrez rien du roman numéro 3 de la saga des Roubon-Macquart. En revanche, vous vous direz que le chien a vraiment du talent. D'ailleurs, le Golden Retriever est un chien très affectueux, idéal pour une famille, avec des enfants. J'ai pas vu de photo de Golden Retriever sur le profil Instagram de Paul Beaupère, mais en général, ceux qui aiment les teckels aiment les Golden Retriever. Mais ça n'est toujours pas le sujet de la chronique, Marie-Charlotte, donc on va reparler de la lecture. Alors heureusement pour la lecture, tout n'est pas sombre. 75% des Français ont lu au moins un livre l'an dernier. Et, tenez-vous bien, en version papier. Et parmi ces 75%, certains ont été influencés par les réseaux sociaux avec ces fameux booktokers, ces influenceurs littéraires, dont certains sont vraiment d'un très bon niveau. Et là, pour le coup, il n'y a aucune ironie de ma part. J'ai découvert Paul Beaupère grâce à une excellente influenceuse littérature jeunesse sur Instagram. Parce que oui, avant d'écrire ce roman policier cyniquement noir et criblé d'empathie, vous êtes un auteur jeunesse très drôle, au coup de crayon qui touche en plein cœur. Je pense notamment aux folles aventures de la famille Saint-Arthur. Chers auditeurs, si vous n'avez pas lu ça, lisez-le, c'est une pépite. Alors chers auditeurs, si en 2026, vous voulez faire trembler les statistiques du Centre National du Livre, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Lisez au moins 2 livres, version papier, dont le dernier roman de Paul Beaupère, 12 balles pour Marie-Thérèse.
Eh bien, merci beaucoup. Excellente introduction, Marie-Charlotte. Je défie quiconque, d'ailleurs, d'essayer de lire 12 balles pour Marie-Thérèse tout en matant des vidéos de Golden Retriever. C'est impossible. Votre roman, une fois qu'on le prend, on ne le lâche pas. Marie-Thérèse est donc à 70 ans et c'est une fille de chasseur alpin, tireuse d'élite, veuve d'artilleur. Elle aurait aimé, elle aurait dû avoir une vie de famille, mais cela ne s'était pas fait. Alors Marie-Thérèse avait chassé. Pour oublier que le nid était resté sans oisillon, elle avait tout tiré, du cerf au bison. Un grimpé encore comme une chèvre, et si elle les avait acceptés dans ses basques, elle aurait laissé loin derrière elle, gueule ouverte et poumons sur la mousse, les jeunes crétins, équipés quêtenaires et habillés barbours, ces endimanchés de la gâchette, qui croyaient aller à la chasse quand ils désinguaient du faisan de batterie ou du perdreau obèse, et n'étaient bons qu'à tirer des coups sous la couette. Alors, quand on vous connaît comme auteur pour livre pour enfants, on se dit, tiens, il a changé de genre. Et surtout, ce qu'il y a de remarquable, je ne sais pas si les auditeurs l'ont entendu, vous travaillez les allitérations, vous travaillez les assonances, il y a un ton faubourien, mais qui en fait est extrêmement corseté. Ce livre, vous l'avez écrit en faisant... pas juste le travail amusant de celui qui écrit un roman policier comique avec un personnage un peu hors norme, cette Marie-Thérèse de 70 ans qui décide d'arrêter d'écouter du Bach pour aller avoiner les truands. Mais il y a une écriture qui est vraiment remarquable.
Je crois qu'on va arrêter là parce que c'est formidable. Je vous écoute, je vous trouve merveilleux. Vous dites beaucoup de bien de moi et ça me fait un bien fou. Alors, en fait, c'est pas si compliqué de passer des enfants à l'adulte, parce que je trouve que c'est plus facile d'écrire pour les adultes que pour les enfants. Parce que là, il y a juste à laisser aller ses mauvais penchants, et la chose coule de source, alors que quand on écrit pour les enfants, on est obligé de faire plus attention, de construire plus, de s'adapter. Là, ça doit être mon mauvais fond qui ressort, donc je n'ai juste qu'à laisser les choses couler.
Alors, votre mauvais fond ressort, mais on en a parlé il y a quelques jours, et je vous disais, mais quand même, cette idée admirable d'une vieille dame vêtue de l'Oden, fumant des gauloises, avec son petit chapeau, avec une plume de jais dans le galon, qui tue tout le monde, et vous m'avez répondu très normalement, mais je me suis inspiré de ma belle-mère. Alors, vous avez quand même une drôle de belle-mère, Paul Beaupère.
Marie-Thérèse existe, je l'ai rencontrée. Oui, alors, très indirectement quand même, parce que jusqu'à preuve du contraire, ma belle-mère n'a encore tué personne.
On n'a rien pu prouver jusqu'à maintenant.
J'ai dit, voilà, je suis prêt, si on m'apporte des preuves, je m'y résoudrai. Mais oui, j'ai la chance d'avoir une belle-mère formidable et qui a une silhouette au sens du personnage, la silhouette au sens complet, et qui est vraiment celle de Marie-Thérèse. Et donc, je m'en suis honteusement servi. Et depuis qu'elle a lu le livre, elle me l'a pardonné avec bonheur.
Voilà. Parce que votre belle-mère chasse.
Parce que ma belle-mère chasse, et la première fois quasiment que je l'ai vue, elle était en train de vider un cerf dans la forêt. Et la scène
était... Ça plante le décor.
Ça plantait le décor, oui.
Vous nous racontez cette histoire de Marie-Thérèse. On ne va pas déflorer toute l'intrigue qui, en plus, a un vrai mérite, c'est qu'elle se complexifie en cours de route. Donc on va éviter... Puisque, en fait, il y a deux lignes de meurtres qui se suivent. Il y a les meurtres que Marie-Thérèse accomplit parce que un commissaire de police qui a repéré son premier meurtre quasi par hasard, du coup, la force à exécuter 12 autres personnes, donc d'où le titre, 12 balles pour Marie-Thérèse. Et en parallèle, il y a un type qui massacre les vélocipédistes de la manière la plus réjouissante possible, c'est-à-dire la plus atroce.
Oui, après, c'est mon côté livre pour enfants. Je me suis dit, ne nous ennuyons pas, changeons de mode opératoire à chaque fois. Et puis, c'est amusant, quitte à tuer les gens, autant s'amuser un peu.
Alors, visiblement, vous vous amusez comme un petit fou.
Oui, et puis tuer un cycliste, c'est pas vraiment tuer une personne.
Mais non.
C'est moins grave.
Notre cycliste descendait benoîtement la rue Hoche, soudain, pour une raison qui reste à définir, mais à propos de laquelle j'ai déjà une vague idée, son vélo électrique s'est emballé. Vu l'état du corps et par comparaison avec des chutes de falaise ou des accidents piétons contre voitures sur lesquels j'ai travaillé, je dirais que le vélo a dû atteindre la vitesse d'environ 150 km à l'heure. Un peu surpris, au lieu de tourner autour de la place, le Gus est allé tout droit, il a traversé la plate-bande, comme le montre cette sublime trace de pneus, il est arrivé sur le socle de la statue de ce bon Hoche, sur lequel il s'est écrabouillé comme une mouche sur un pare-brise. Ce vieux Lazare Hoche en est tout éclaboussé, là où sur son piédestal, il n'avait pas vu autant de sang depuis qu'il avait pacifié la Vendée. Je suis prête à parier qu'il a apprécié la chose en expert. Maintenant, examinez la victime. Si vous regardez au milieu de ce qui ressemble à un énorme steak haché ou tartare, c'est selon les goûts, vous distinguerez assez nettement ici un pied qui possède encore sa chaussette, là un œil qui s'est échappé. Admirez, continua l'experte en pointant son doigt ganté, c'est à cet endroit précis que la tête a explosé, projetant des morceaux de ce qui a été sans doute un cerveau peut-être brillant à 10 mètres à la ronde. Vous remarquerez que le cadre du vélo et son propriétaire se sont intimement mélangés, que les deux ne font plus qu'un. Cycliste de son vivant, notre victime, une fois morte, est devenue sans tort. Voilà. Donc, et on sent, vous êtes comme beaucoup de piétons qui trouvaient que les vélocipédies s'en prennent un peu à leur aise.
Je me sens en danger maintenant sur un trottoir parce que la mort peut surgir de partout avec deux ou trois roues, parce que maintenant il y en a trois roues, et silencieusement électrique. Donc je suis un piéton apeuré. J'ai l'impression d'être un pigeon en fait, posé et que les chats rôdent. Mais après, il y a des...
Et donc,
des...
toutes les mauvaises pensées que vous inspirez les vélocipédistes, vous les avez sublimées dans cet
exactement,
excellent roman.
Exactement.
12 balles pour Marie-Thérèse.
Alors, pour la petite histoire, tout naît. J'étais en train d'écrire ce roman. Je n'avais pas encore cette deuxième ligne de meurtre quand, traversant une rue pas très loin de chez moi, un vélo manque de me renverser. Et de rage, je rentre chez moi et j'écris un chapitre comme ça, une petite histoire, et je la poste sur les réseaux sociaux où j'ai mes habitudes mauvaises, j'en suis conscient. Et une amie autrice par ailleurs, je ne sais pas si le mot autrice est accepté ici.
Si, si on pense à la même personne, elle voudrait que vous utilisiez ce terme-là.
Et alors, cette amie, non, je crois qu'on ne pense pas à la même personne, mais ça pourrait aussi, m'a dit, ah ça c'est bien, il faut que tu le mettes dans... Et c'est comme ça que les deux lignes se sont mélangées. C'est grâce à un cycliste, en fait. Donc finalement... Je ne peux pas leur en vouloir complètement parce que je leur dois beaucoup.
Il lui sera beaucoup pardonné.
Exactement.
Il y a quelque chose et vraiment charmant dans ce livre, et charmant au sens fort du terme, c'est-à-dire on est emporté par le charme de la chose, c'est l'intrigue avance, il y a ce personnage un peu extraordinaire qui tue en rechignant, parce que voilà, après tout, tuer n'est pas dans ses habitudes de jeune fille élevée à la Légion d'honneur et femme d'artilleur, c'est quelqu'un de respectable, elle boit du thé avec beaucoup de gnôle dedans, de la prune, assez visiblement, vous le dites à un moment donné, pour fournir la Bretagne en 6 mois de crêpes flambées, donc bon, malgré tout, Marie-Thérèse a vraiment de la bouteille, et... Il y a une richesse de comparaison admirable, de moments où on sent qu'il y a cette espèce de poésie qui vous saisit. Vous êtes un diariste remarquable, vous racontez vos souvenirs d'enfance sur Facebook, c'est absolument épatant. Et là, il y a des moments, le jour se pointait en râlant, les négociations avec la nuit n'en finissaient plus, l'un voulait arriver, l'autre ne voulait pas rendre les armes. Ils en étaient à se partager le terrain, la nuit gardait les sous-bois tandis que le jour avait déjà conquis les cimes. C'est absolument, enfin voilà, c'est un petit poème en prose épatant.
C'est ma période Victor Hugo.
Mais, ouais, voilà,
mais ça dure 4 lignes sur tout le livre. Hein, donc,
alors que les gens se rassurent. À côté de ça, voilà, il y a du meurtre, il y a du saignant, il y a de la balle.
Mais je crois quand même qu'on peut revenir à la littérature jeunesse. En fait, il y a quand même chez moi quelque chose qui reste de ça et dans le petit côté amusant. Et notamment, comme vous parliez tout à l'heure des jeux à littération, assonance et tout ça. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'utilise énormément en littérature jeunesse. Pour une raison, c'est que il faut donner un rythme parce que c'est quelque chose qui va être lu à voix haute.
C'est une musicalité
et, donc, il
et
faut
qu'on retrouve d'ailleurs
exactement.
Tout le long de votre roman.
Exactement.
Et c'est assez fascinant d'avoir capté ça, je trouve. C'est ce qui manque parfois dans la littérature aujourd'hui contemporaine adulte. Soit on a quelque chose de très psychologique, et pourtant vous faites une analyse très fine de la psychologie des personnages, mais les romanciers d'aujourd'hui ont tendance à oublier cette musicalité. Or, comme vous dites, un livre est fait souvent pour être lu à voix haute. Et ça, c'est ce qui est possible avec votre roman, je trouve.
Moi, je pense que si un texte tient à voix haute, il tient à voix basse, entre guillemets. Mmh. Et que donc, moi, je lis tout ce que j'écris à voix haute, avec pour seul témoin le teckel, qui est sur mes genoux à ce moment-là et qui se bouche les oreilles. Mais vraiment, je pense que si quand je le lis, ça ne passe pas, ou s'il y a un mot qui bloque ou au contraire, quelquefois, on change un mot juste pour que la mélodie, qu'il y ait quelque chose dans le rythme. Et donc, ça me fait plaisir si vous l'avez noté, parce que j'essaye vraiment de faire que ce texte puisse être lu à voix haute, en me disant, s'il est lu à voix haute et qu'il passe, il passera à voix basse.
Pour moi, c'était justement un travail un peu à la Gustave Flaubert, qui travaillait énormément ses phrases.
Ouais.
Parce que vous parliez de Victor Hugo, mais moi justement j'ai davantage retrouvé un esprit à la Gustave Flaubert où cette virgule doit être là, ce rythme est là, dans telle phrase il va y avoir suffisamment d'éléments pour permettre à l'intrigue de se développer, et puis en même temps de rire, parce que vraiment on rit à certains moments.
C'est, c'est
tellement absurde, comme disait Richard, ce personnage, que ça n'en est pas... comment dire, cadavérique, dans le... parce que c'est sombre, ça c'est certain, mais c'est pas effrayant. Moi qui suis assez sensible,
alors, là aussi,
j'ai pas été effrayée, j'ai ri de bon cœur, pardon, de bon cœur à certains moments, vraiment.
Je crois que je n'impose pas, quand je décris quelque chose d'horrible, je crois que je n'impose pas les images au lecteur. Donc il va se les faire lui-même en fonction de ses propres références et en fonction, je pense que je mets suffisamment d'éléments pour qu'il voit la chose, mais comme il va reconstituer la chose lui-même, il se la reconstituera à sa façon. Et ça aussi, je pense que ça vient aussi directement de la littérature jeunesse, voilà. Où il faut en donner, mais pas trop, parce que si vous faites une vraie description, vous perdez votre lecteur. Et en même temps, il y a un vrai jeu de donner juste les trois éléments qui vont faire que l'image va se composer d'elle-même.
Alors, et c'est vrai, il y a une richesse de métaphores qui est admirable et qui permet d'ailleurs d'installer une distance. C'est-à-dire, Daniel Pennac, lorsqu'il décrit les meurtres, par exemple, au début de la Fée Carabine, parle de bouquets de fleurs. Enfin, donc, on se retrouve effectivement avec des métaphores extrêmement parlantes et on peut se peindre la chose, mais en même temps, il n'y a pas cette espèce de précision d'entomologiste abominable des auteurs septentrionaux qui vous décrivent précisément la manière dont chaque gramme de cervelle était éparpillés sur le bitume.
Non, parce que justement, je crois que ce qui est intéressant, c'est de faire que chaque lecteur reconstitue sa propre histoire dedans. J'ai découvert ça il n'y a pas très très longtemps et ça m'a rendu très, très heureux. Et du coup, je l'utilise tout le temps. Dans les parcs et les jardins, quand les gens s'amusent à prendre des chemins qui ne sont pas ceux prévus par celui qui a dessiné joyeusement le parc, ça trace des lignes sur les pelouses et des choses comme ça. Et on appelle ça des chemins de désir. Où je crois que c'est ça le terme. Et donc, c'est le chemin, la personne qui a conçu le parc a tout prévu, tout, hein, c'est impeccable, c'est comme ça, et les gens font autre chose. Et je crois que dans nos livres, chaque lecteur fait ses chemins de désir. C'est-à-dire qu'il reconstitue, chaque lecteur réinvente le livre à chaque fois. Moi, j'ai juste à lui donner les images qu'il lui faut. Donc, celui qui aura des habitudes de choses très, très violentes et gore, je pense, verra dans chacun de mes meurtres tout ce qu'il veut voir. Et ceux qui ont besoin de plus de distance la garderont. Et c'est en ça que c'est, j'impose pas. Après, ouais. Le rire, ça, par contre, c'est... moi, je ris pas quand j'écris. Mais j'aime bien l'idée de faire rire.
Oui, c'est ça. Vous visez quand même le comique, parce que les personnages sont tous un peu plus grands que la vie, un peu plus truculents, un peu surprenants. Et il y a une collection, en fait, d'inadaptés sociaux assez complète. Et il y a... aussi, je dis ya, c'est abominable, il y a vraiment cette attention, une fois de plus, à tout ce que l'époque nous propose comme laideur et auquel vous opposez systématiquement le recours aux forêts, où là, au contraire, Marie-Thérèse retrouve son calme. Et dans la laideur, il y a évidemment la laideur des fêtes de fin d'année, comme on dit aujourd'hui, cerf, biche, nain ou Père Noël se dessinaient dans la nuit et donnaient à la plus banale des maisons un désert de Vegas sur misère. Le bon goût n'était pas toujours au rendez-vous, mais le spectaculaire ne reculait devant aucun excès. Toute l'année, on bouffait du premier prix pour finir le mois, mais pendant 3 semaines, on était prêt à couper les nouilles en deux pour enflammer le quartier. Dans ce domaine, décembre était un expert, trop était son minimum, toujours plus sa devise. Sa maison avait assez de guirlandes et d'ampoules pour éclairer une piste d'atterrissage de Paris à Pékin, ce qui était normal pour un type qui prenait si souvent l'avion. Voilà. Et ça, ça nous accompagne tout au long du livre, et on attend presque le meurtre suivant, non pas tant pour vérifier à quel point Marie-Thérèse est habile avec les différentes armes que lui fournit celui qui commandite les crimes, mais pour le plaisir d'arriver dans un endroit nouveau, puisque vous nous faites voyager dans toute la France pour assassiner ces méchants. D'où vient l'idée de ce commissaire maléfique qui décide de finir sa carrière en exécutant les méchants qu'il n'a pas réussi à coffrer ?
Eh ben, je vais vous décevoir, mais j'en ai aucune idée. Je me souviens.
C'est pas votre belle-mère, ce coup-ci.
Non, alors.
D'accord.
Si, enfin, oui, non. Ma belle-mère chasse, donc elle sait tirer. Elle chasse le gros gibier, donc c'est une chose où il faut être assez précis et qui se fait avec une lunette. Donc elle avait le profil. Mais après, le commissaire, je ne me souviens pas, je serais incapable de vous dire à quel moment j'ai mis en place cette situation-là. Lui, dans son nom, il est un hommage, enfin, il a un lien avec Fred Vargas et son commissaire Adamsberg, puisque moi, c'est Abel Berg et que Abel est le fils d'Adam. C'est d'une subtilité très relative, mais...
Ah oui, moi, j'étais persuadé que c'était Alban Berg, genre la musique contemporaine, voilà.
Ah non, mais mes références ne vont pas jusque-là. Mais je ne me souviens pas à quel moment je me suis dit, tiens, ce serait rigolo de faire ça. J'allais dire, presque la chose s'est imposée d'elle-même et donc je m'en suis emparé. En fait, il y a quand même beaucoup de choses, moi, que je ne décide pas. Quand j'écris, j'aime bien dire que je suis comme je suis assis au bord d'un marais et il y a des bulles qui sortent et j'attrape les bulles. Et au moment où j'attrape la bulle, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et donc, elle explose et je fais quelque chose avec. Donc, moi, je suis un auteur qui fait avec ce que les choses, avec ce qui lui arrive. Je ne décide pas de tout. Et donc là, je... me souviens pas du tout d'avoir dit « Ah, ce commissaire va faire ça ».
En revanche, est-ce que vous aviez décidé ou est-ce que ça s'est imposé à vous, pour votre premier roman adulte, d'écrire un roman policier noir ?
Alors,
ou est-ce que c'était... c'est un peu le rêve peut-être de tout auteur de...
Non, mais moi, c'est pas du tout un rêve. Il y a pas si longtemps que ça, je pense que je vous aurais dit « Moi, j'écrirai jamais pour les adultes, j'écris pour les enfants, c'est très très bien ». Il se trouve qu'un jour, j'ai écrit le premier chapitre de ce livre pour m'amuser. Et puis, si vous regardez bien dans le premier chapitre, il y a tout ce que je pourrais jamais mettre dans un livre.
Dans un roman jeunesse.
Il y a vraiment, en résumé et en deux pages, tout ce qu'on ne peut pas mettre dans dans une histoire pour enfants. Et en tout cas, telle que moi, je la conçois. Parce qu'il y en a qui le feront peut-être, mais moi, je pense que pour les enfants, on doit les préserver. Et donc, moi, j'écris pour des enfants qui...
C'est vrai que le meurtre, l'alcoolisme et la pédophilie ne sont pas forcément leur place dans des livres pour enfants qui ne sont pas édités par Jack Lang.
C'est ça. Pour moi, je pense qu'on doit pouvoir préserver des moments d'innocence encore. Donc ça. Et là, j'ai fait ce chapitre-là. Et encore une fois, je l'ai publié sur les réseaux. Et c'est des réactions d'amis qui ont fait que c'est devenu un livre parce que beaucoup de gens... dont je ne trahirai pas de secret, dont Richard, ont assez rapidement dit « Ah, c'est pas mal, ça, il y a un truc ». Et donc, j'ai continué.
Donc, ça s'est finalement imposé.
Et ça s'est imposé. Oui. Et d'autant plus que je ne suis pas un lecteur de polar. J'en ai lu un petit peu, mais vraiment pas comme je le découvre aujourd'hui dans cette communauté-là, où les gens sont des furieux du genre, lisent tout et sont très pointus. Ce qui fait que j'ai le droit à des critiques de mon livre que je trouve extraordinairement intelligentes, et qui me donne à penser que je dois être plus intelligent que je ne crois, parce que je ne comprends pas ce que les gens ont compris dans mon livre. Donc je trouve ça merveilleux.
Mais il faudra écrire le deuxième pour mieux comprendre.
Alors le deuxième est en route. Mais donc, je n'ai pas décidé à un moment d'écrire un polar en me disant « je veux écrire un polar ».
D'accord.
Mais en fait, en y réfléchissant bien, c'est quand même un bon truc, parce que la littérature de genre, ça permet d'avoir des codes. Et pour un premier, c'est pas mal de se balader entre deux... dans des rails.
Oui.
Et donc finalement, c'est peut-être un truc un peu de facilité.
Ah non, moi je ne trouve pas. C'est pas du tout facile parce que effectivement, on a tous lu Simonin, Touchez pas au Grisby, notamment de temps en temps. Non, je sais, vous ne l'avez pas lu. La bande à Bonap. Moi, ça me fait irrésistiblement penser au polar français 50-60 avec peut-être aussi un peu de Tonino Binacista. Vraiment, l'idée de on suit une intrigue policière. Avec d'ailleurs cette chose assez aimable qu'on n'est pas dans le Agatha Christie en train de se demander qui a tué qui, on sait tout de suite que c'est Marie-Thérèse qui est en train de flinguer à tout va, et on est juste parti dans l'idée qu'il y a bien un moment donné où Marie-Thérèse va se faire serrer et donc peu à peu les autres policiers arrivent, on est haletant, Marie-Thérèse va-t-elle enfin être elle-même une proie, alors grâce à Dieu vous trucidez des cyclistes à la pelle et à la truelle, enfin vraiment vous beurrez de cyclistes quand on ne sait pas ce qui va devenir Marie-Thérèse, donc ça permet de soutenir le suspense, mais voilà, c'est pas du tout facile parce que les deux histoires s'entrelacent, les personnages continuent à fleurir, Marie-Thérèse a de vrais problèmes de conscience, elle essaie d'ailleurs de s'en ouvrir à un prêtre noir qui dessert ce coin paumé dans les Ardennes et qui n'a jamais le temps de répondre ni à ses SMS ni à quoi que ce soit, et donc elle navigue avec sa conscience en essayant d'interpréter les signaux du ciel qui bizarrement a l'air de lui autoriser deux ou trois des macchabées qu'elle sème. Et nous, nous sommes emportés après un court voyage dans un ascenseur décoré, comme le cercueil d'un homme de goût ayant fait fortune dans les films coquins et les mines de cuivre. Là, on se dit, mais Dieu du ciel, d'où est-ce que ça sort? Elle découvrit résilience. Cette chambre, qui allait lui coûter la moitié d'un bras et l'intégralité de l'autre, à défaut d'être élégante, était ébouriffante. En vérité, tout y était un peu trop. Trop grand, trop pop, trop neuf, trop luxueux, trop brillant, trop tout. Cela plaît-il à madame? C'est merveilleux. Vous pourrez dire à votre décorateur de ne jamais venir chez moi. Et Marie-Thérèse, comme ça, avance dans la vie avec... ce ressort que je trouve là aussi très aimable, évidemment, chaque meurtre lui pèse, son éducation, sa religion, ses mœurs tranquilles l'éloignent du meurtre de masse. Et en même temps, le commissaire Abelberg lui fournit à chaque fois des dossiers où les crimes des personnes sont si abominables qu'elle prend des coups de sang. Alors parfois d'ailleurs, le type est abominable et elle ne le tue que parce qu'en plus il commet une faute de goût. Comme pas, voilà. Elle est au bord de lui pardonner, mais le gars met malencontreusement la musique d'un Bach remixé à la batterie, et donc là, à l'idée que Bach soit à ce point-là profané.
C'est moche, ça. Non, mais en fait, c'est rigolo parce qu'en vous écoutant, je me dis que finalement, il y a un lien que je n'avais pas fait entre la littérature jeunesse que je pratique et celui-là. C'est que Marie-Thérèse, à 70 ans, est une enfant. C'est-à-dire qu'elle a, quand j'écoute, je trouve ça assez bien écrit en fait.
Et
je me dis qu'elle réagit face au monde exactement comme un enfant. C'est peut-être le privilège d'être passé un peu de l'autre côté, c'est-à-dire de vieillir. C'est que le monde qui nous arrive derrière nous étonne autant quand on a 70 ans qu'il nous étonne quand on en a 10 de celui qui est devant. Donc en fait, c'est peut-être le lien. Et du coup, ça lui donne cette innocence face à ce qui lui arrive. Et cette capacité aussi à douter et à ne pas savoir si elle doit buter ou pas. Et c'est aussi la chose, pour que ça soit un peu crédible quand même, c'est que même quand on est chasseuse et qu'on a 70 ans, qu'on fume 2 paquets de clopes par jour et qu'on a un caractère bien trempé, tuer son prochain reste un exercice difficile.
Oui. Voilà. Et donc, sa conscience la tourmente.
Marie-Thérèse a une âme.
Marie-Thérèse a des principes, une âme. Elle est pourvue de mille choses. Vous nous disiez que le tome 2 de vos œuvres pour adultes, entre guillemets, est en préparation. Vous remettez Marie-Thérèse sur le fourneau ou pas?
Marie-Thérèse a 70 ans. Je pense qu'il lui est arrivé une aventure par hasard, puisque elle a été... Donc, je ne suis pas sûr qu'il soit très raisonnable de lui demander de revenir. Maintenant, Marie-Thérèse peut traîner dans un coin, elle a toujours un fusil sous le coude et des
envies... Et on s'est attaché à Marie-Thérèse.
Alors ça, c'est une chose que j'ai découverte, vraiment. C'est que j'ai écrit ce livre en m'amusant beaucoup, avec un personnage, effectivement, qui traînait dans ma tête, mais je ne me rendais pas compte qu'il était aussi attachant, parce que tout le monde m'en parle, et vraiment, c'est l'élément manifestement central du livre. Donc j'ai découvert, et pour le second ça m'inquiète beaucoup, que pour écrire un livre, c'est bien d'avoir des personnages qui sont vraiment...
Donc, effectivement, vous avez forgé cette capacité à imaginer des personnages forts avec vos romans pour jeunesse. Moi, je n'aurais pas cité la famille...
La famille Saint-Arthur.
La famille Saint-Arthur, j'aurais plutôt cité les chroniques de Folbrûl.
De Folbreuil.
Ouais, Folbreuil, avec cette princesse qui ne rêve que Playboy, mais qui en même temps est raisonnablement féminine, et dans laquelle j'ai eu l'impression de retrouver une Marie-Thérèse qui, après avoir épousé un prince et fait ses devoirs royaux, se décide finalement de reprendre l'épée. Là, en l'occurrence, c'est une carabine, mais la chose est une aimable métaphore. Et quant à la fin, c'est vrai que vous nous dites tout à la fin, si un jour, par un malheureux hasard, vous tombiez sur le récit de la suite de la vie de Marie-Thérèse Marchepied, ne le lisez pas. Ce texte est classifié top secret et le lire vous condamnerait à être abattu comme un chien par les services spécialisés. Donc c'est vrai, vous fermez toute possibilité de résurrection de Marie-Thérèse.
Mais c'est là où je vois, Richard, que vous êtes un homme brillant, parce que les autres ont interprété la chose comme le fait qu'il y aurait un deuxième Marie-Thérèse, alors qu'effectivement j'ai averti le lecteur qu'il ne peut pas y en avoir. Ou alors je serais obligé de tuer tous les lecteurs du livre. Ce qui, pour un romancier, est un peu idiot, parce que tuer son propre client, c'est quand même scier la branche sur laquelle on essaye de s'asseoir.
Et en même temps, quelle autobiographie géniale.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Il devient son propre personnage.
Comment j'ai tué 153 622 lecteurs.
Ça pourrait être intéressant comme sujet. Ça,
pourquoi n'écrivez-vous plus depuis 20 ans,
Je
suis en train d'assassiner le 152 998e.
Je garde l'idée pour le tome 3.
Bon, Paul Beaupère, merci mille fois. Je rappelle, et remettons la couverture, 12 balles pour Marie-Thérèse, un roman policier épatant, chez City CITY édition. Voilà, c'est en vente depuis 10 jours. Ouais. Les critiques sont bonnes, ouais. les amateurs de polar délirent.
Et oui, comme des fous.
Et ben voilà, nous prenons l'engagement dès que vous aurez dépassé les 10 000 de vous réinviter.
Ok.
La semaine prochaine.
Dieu vous entende.
Merci beaucoup, Paul Bocquet.
Merci, Richard.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Chers amis, bonjour à nouveau. Voilà, nous sommes revenus en studio. Paul Bocquet nous a quittés. Je reçois un écrivain totalement différent, puisqu'il s'agit de Renaud Camus, et qui a la gentillesse de passer par Paris, et avec qui nous allons parler de deux choses. D'une part, la manière dont des journalistes du Monde ont commis un livre absolument ordurier sur lui. Mais voilà, nous ne sommes pas étonnés, même nous remercions les écrivains du Monde et les journalistes du Monde d'être fidèles à la réputation qu'on leur fait. Et par ailleurs, nous parlerons de décolonisation, votre dernier essai sur, évidemment, quelque chose qui est tout à fait intéressant, puisqu'il s'agit non pas de célébrer LFI et la manière dont LFI nous parle de décolonisation, mais de la manière dont nous pourrions nous-mêmes nous décoloniser. Bonsoir, Renaud Camus.
Bonsoir, monsieur.
Et j'ai le plaisir, évidemment, de recevoir avec vous Rémi Soulier, voilà, qui lit l'œuvre de Renaud Camus depuis des années.
Et réciproquement.
Et donc, à nous quatre, puisque Marie-Charlotte a la gentillesse de rester avec nous, nous allons pouvoir parler d'abord donc de cet ouvrage, « L'homme par qui la peste arriva » de Gaspard Delhem et Olivier Faye. Donc, Flammarion, 256 pages, 20,90 €, ne l'achetez pas. Ce sont des journalistes du Monde qui viennent chez vous, vous les recevez aimablement, et qui vous disent « on a envie d'écrire un livre sur vous, vous acceptez, vous leur ouvrez la porte, vous les nourrissez de votre conversation, de votre saucisson, de votre vin, de votre bibliothèque, de vos archives, et ils réussissent à faire un truc voilà, méchant, soyons francs ».
Ah ben ils étaient là pour faire quelque chose de méchant, et c'était d'emblée, c'était évident. Il n'y a pas eu de malentendu sur ce point. Je vous dis, nous sommes des journalistes du Monde. J'ai dit, ah, manifestement, vous ne venez pas en ami. Et ils ont confirmé qu'ils ne venaient pas en ami.
Mais, alors, ils sont venus plusieurs fois.
Ah oui, ils sont venus plusieurs fois, oui, oui. Oui, oui, 2 ou 3 jours, 6 ou 7 fois, me semble.
Alors, et ils disent dans leur livre que vous avez rapidement intégré ces deux journalistes dans votre journal, puisque votre journal est d'une générosité, vous ne cachez rien, vous racontez tout ce qui vous arrive. Donc, évidemment, le fait qu'il y ait deux journalistes du Monde qui débarquent, ça aurait été dommage de ne pas en parler. C'est un journal que vous publiez régulièrement, dire non seulement en livre, mais aussi sur les internets. Et donc, les journalistes du Monde ont découvert au fur et à mesure de la manière dont vous parliez d'eux et de leur travail en expliquant que vous aviez adopté la tactique de Kutuzov, c'est-à-dire la terre brûlée. Voilà. Vous aviez décidé de ne garder aucun secret pour qu'ils puissent rentrer dans la personnalité de Renaud Camus exactement comme un envahisseur essaye de rentrer sur une terre déjà dévastée en ne rencontrant aucun obstacle et en étant très surpris.
Oh, dévastée, c'est trop dire. Je ne dirais pas que la terre est nécessairement dévastée, mais elle a été en tout cas ouverte. Ce n'est pas une terre brûlée, mais c'était une terre livrée. ce qui était de ma part un minimum de cohérence. Il se trouve que je tiens un journal depuis 50 ans. Je publie même mes agendas, mes actas, jusqu'à mes comptes bancaires. Absolument tout est public. Je vis dans une maison de verre et il aurait été totalement incohérent de ma part de leur dire mais non, je vais vous interdire l'accès à quoi que ce soit. Ils auraient pu dire après, mais alors si on n'a pas le droit de vérifier, vous pouvez dire absolument n'importe quoi. Donc non, ils ont eu accès vraiment absolument à tout, sans exception, à la maison, au placard, aux archives, à la correspondance, aux agendas, à mon ordinateur. Ils ont été laissés seuls à la maison avec mon ordinateur pendant que je battais la campagne. Non, ils ont eu droit absolument à tout.
Rémi Soulier, donc, vous qui lisez le journal de...
Renaud Camus,
pardon, voilà, je ne sais pas pourquoi j'avais Albert en tête, et je me dis non, c'est pas lui, il est mort. Voilà. Donc vous qui lisez le journal de Renaud Camus, vous avez vu apparaître les personnages du Monde, est-ce que vous vous attendiez ensuite à ce que le livre sur Flammarion soit aussi à charge et que l'homme par qui la peste arriva, soit un ouvrage à ce point-là critique, aigre et mensonger par moment.
Oui, je m'y attendais précisément pour la raison qu'a dite Renaud Camus, c'est-à-dire que les journalistes du Monde, par définition, ne venaient pas en amis, et encore moins en membres de la société des lecteurs de Renaud Camus. Donc, leur dessin était tout à fait explicite, c'est un livre à charge, mais sans qu'aucun argument de mon point de vue ne porte, c'est même au-delà de toute espèce d'argumentation. Le but, c'était vraiment, le titre suffit à dire ce dont il retourne, c'est-à-dire que l'essentiel, c'est le lien avec Albert Camus, avec la peste, donc, c'est-à-dire avec le fascisme, enfin pour aller très très vite, et le sort de Renaud Camus était déjà en quelque sorte joué, accompli d'emblée. Et alors là, pour le coup, je n'ai pas été déçu lisant le livre, mais je ne pensais pas qu'il soit possible d'aller aussi loin dans... Alors c'est bien au-delà de la mauvaise foi, c'est bien au-delà de tout ce que l'on pourrait imaginer dans la vindicte, mais c'est dans une forme de contresens total. Ils ne sont pas du tout entrés dans l'œuvre de Renaud Camus, ni du point de vue de la lettre, ni du point de vue de l'esprit. Et pour un lecteur en effet attentif et... déjà ancien de Renaud Camus, comme je le suis, c'est ce qui est le plus frappant. Alors il y a en particulier, mais je ne sais pas si j'en fais état d'ores et déjà, mais il y a trois points qui à mes yeux sont inadmissibles, enfin sont particulièrement ignobles, c'est-à-dire particulièrement vils, dans leur essai. Alors, est-ce que je les expose ? Je ne sais pas, oui, Charles XVI, je vous regarde.
On est là pour du saignant, on est là pour de l'immonde, on est là pour du vil.
Voilà, pour de l'immonde, c'est le cas de le dire, bien sûr. Alors, le premier point qui m'a sauté aux yeux, et qui est particulièrement vil, donc, c'est qu'ils font de Renaud Camus un homme de ressentiment, au sens nietzschéen d'ailleurs, du mot, hein, c'est-à-dire un homme qui serait animé par un désir de vengeance. C'est ça le ressentiment. Autrement dit, ils nous présentent Renaud Camus comme un jeune écrivain arrivant à Paris en quête de gloire, en Rubempré, et puis qui, déçu par l'accueil du lectorat à l'endroit de ses ouvrages, se vengerait d'une certaine manière d'un ensemble d'acteurs, voire même de la société, pourquoi pas, et aurait dès lors adopté le meilleur moyen, retrouvé le meilleur moyen pour enfin avoir une gloire, fût-elle ténébreuse, fût-elle au noir, à travers cette formule de grand remplacement.
Voilà. Ceux qui le vénèrent aujourd'hui, donc Renaud Camus, à l'extrême droite, l'ignorent pour la plupart ou se gardent le mentionner. Renaud Camus n'a pas toujours été des leurs. L'homme incarnait même tout ce qu'il déteste, l'avant-garde artistique, le cosmopolitisme, un symbole de l'émancipation homosexuelle. Bien sûr, nous qu'on est à droite, Monterland, le jazz, enfin, tout ça. Genre, on est toujours passé à côté de tout. On en est resté à Lully et à Paul Bourget. Voilà. En 40 ans, il est passé de Louis Aragon à Éric Zemmour. Voilà, on imagine effectivement les types du monde avec la calotte crânienne qui décolle. Il est passé des pique-niques à la factory d'Andy Warhol aux apéros saucisson pinard, entre guillemets, organisés par les identitaires. Voilà, c'est, le ressentiment vous anime, Renaud Camus ?
Écoutez, non, je n'en ai pas l'impression, mais leur procédé est assez simple. Pour les biographes, je leur ai beaucoup facilité la tâche, puisqu'il y a tous les journaux et tous les agendas avec heure par heure ce qui m'arrive. Donc c'était très facile, ils avaient une masse considérable de journaux. Je crois qu'ils n'ont vraiment lu que les journaux, parce qu'ils n'ont aucune idée, manifestement, d'ailleurs ils ne le mentionnent même pas, du reste de mon travail. Ils prenaient tout ça et ils prenaient tout ce qui était à charge. Moi, j'ai une conception du journal. Le journal ne consiste pas à se présenter toujours sous son meilleur jour, à ne noter que ses bonnes pensées, ses bonnes actions. Il y a des choses, évidemment, moins honorables. Il n'y a rien de particulièrement déshonorant ou sale. Enfin, il ne garde que ça. Il garde tout ce qui est contre moi. Et tout ce qui revient ensuite, soit sous la forme de remords ou de considérations, tout ça est totalement supprimé. Donc il n'y a que les éléments négatifs qui demeurent. C'était un travail pas très difficile à faire.
Rémi Soulier, donc les deux autres points sur lesquels vous avez l'impression que les journalistes du Monde ont été comme de vrais journalistes du Monde.
Alors je termine juste le premier, c'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était un travail, je reste dans le registre nietzschéen parce qu'il me paraît important, alors que Renaud Camus, c'est une évidence quand on le lit, est étranger à tout esprit de ressentiment, on ne peut pas faire de contresens plus complet, plus global, à tout esprit de ressentiment et de vengeance. Je reste dans le registre nietzschéen, donc je trouve qu'ils ont une âme plébéienne, en quelque sorte. Je ne dis pas une âme populaire, hein. Je distingue bien les deux, ça n'a strictement rien à voir. Au sens Nietzsche, une âme plébéienne, et l'âme de Renaud Camus étant aux antipodes, c'est-à-dire étant une âme foncièrement aristocratique. Non pas selon le sang, mais selon l'esprit. On pourrait se référer à d'autres, à Baudelaire, enfin. Il appartient à sa vie, la manière dont il la vit et dont il l'écrit, est profondément aristocratique. On pourrait dire, je vais citer un nom qui n'est peut-être pas très heureux ici, mais c'est Philippe Solers qui avait parlé de la théorie des exceptions. Exception, telle est la règle en art et en littérature. Renaud Camus est une exception. Donc il est aux antipodes de tout réflexe plébéen. Le deuxième point, et c'est aussi là encore en contresens, enfin c'est même pas en contresens, c'est une absence massive, un néant, c'est ils n'ont rien noté de ce qui est cardinal aussi dans l'œuvre de Renaud Camus, c'est l'humour, c'est le rire. Il y a un rire de Renaud Camus, comme il y a un rire de Proust, comme il y a un rire de Céline, et les commentateurs, souvent, de Proust et de Céline, le notent peu. Renaud Camus, il est impossible d'ouvrir un volume de son journal sans éclater de rire à un moment ou à un autre. Le rire de Renaud Camus est dirigé au premier chef, bien souvent, à son propre endroit. C'est-à-dire qu'il se met en scène d'une telle manière que le lecteur ne peut que rire aux éclats quand il fonde le parti de l'innocence et qu'il lit à quel point il sait être un tribun et un orateur. On ne peut pas ne pas éclater de rire. Cet humour, ce rire de Renaud Camus sont fondamentaux si on prétend entrer dans son œuvre et la comprendre. À ma connaissance, je n'ai pas relu l'essai de messieurs Delhem et Faye, mais à ma connaissance, il n'est pas du tout question de l'humour et du rire de Renaud Camus. Le troisième point, particulièrement là encore, qui brille par son absence, on sent bien qu'ils ont voulu nous faire comprendre qu'il y avait deux Renaud Camus, hein. Vous en avez fait état, Richard de Sèze, il y a le bon, il y a le méchant, il y a le numéro 1, le numéro 2, il y a le Dr Jekyll, le Mr Hyde. Bon. Là encore, c'est une manière de voir, hein, ils n'ont pas lu Renaud Camus, c'est pas possible. On peut, pour certains écrivains, Barrès, Peggy, on a dit avec raison qu'il y avait un Barrès numéro 1, un Barrès numéro 2, Peggy la même chose, ça peut s'entendre, ça peut se comprendre jusqu'à un certain point, mais ce point est toujours superficiel. On peut le dire concernant Renaud Camus également, mais quand on l'aura dit, on n'aura rien dit. Ceux qui n'ont pas vu, ce qu'ils auraient dû voir s'ils avaient lu Renaud Camus, c'est que depuis le début, Renaud Camus est un écrivain qui habite la phrase, qui habite la syntaxe. Ce sont des points fondamentaux. Aussi bien le Renaud Camus dit d'avant-garde que le Renaud Camus. C'est-à-dire que Renaud Camus, d'emblée, dans la relation qu'il entretient avec le langage, avec la langue, se situe foncièrement, y compris du point de vue de l'avant-garde, dans un ordre classique. Dans un ordre classique. Et cet ordre classique traverse au sens littéraire. Hein, je ne dis pas que Renaud Camus est un écrivain classique au sens du XVIIe siècle français, mais en un sens beaucoup plus général, cet ordre de la syntaxe, c'est son habitation littéraire, c'est son habitation du monde. Si on ne le voit pas, on se contente de l'épiderme, de la surface, et on dit, en effet, il y avait le bon docteur Jekyll qui avait sa carte au Parti Socialiste, qui était dans l'avant-garde, etc. Et puis il y a maintenant, effectivement, l'homme de la peste, en quelque sorte. Ce sont trois considérations ou absences de considérations qui témoignent, pour un vieux lecteur de Renaud Camus que je suis, qui témoignent d'une incompréhension totale de l'esprit et de la lettre de Renaud Camus.
Alors, Renaud Camus, évidemment, cet honneur considérable de fait d'être un objet de détestation pour les journalistes du Monde, voilà, beaucoup de gens n'ont pas une telle satisfaction littéraire et une telle reconnaissance sociale, vient du fait que vous avez inventé le concept de grand remplacement, en tout cas c'est ce que Delhem et Olivier Faye disent, et que ce concept de grand remplacement s'est répandu comme une peste dans tous les esprits, en France notamment avec Éric Zemmour, mais partout ailleurs, en fait, visiblement, vous êtes l'inspirateur de Donald Trump et tous ceux qui gravitent autour de lui ont été atteints par le virus. On ne compte plus les éminences MAGA qui ont été reçues à Plieux ces derniers mois. Il y a d'abord eu le blogueur néo-réactionnaire Curtis Yarvin, donc, qui écrit depuis plusieurs dizaines d'années et qui, à mon avis, ne parle pas français, l'un des maîtres à penser des nouvelles élites trumpistes, proche du milliardaire fondateur de PayPal, Peter Thiel, venu discuter de la fin de la démocratie en mangeant des cannelés arrosés de champagne. On sent que c'est une circonstance aggravante. L'excentrique personnage a fini sa journée chez les gendarmes qui l'ont ramassé dans un champ après un accident de voiture. Barbouzerie, on ne sait pas. Puis c'est l'intellectuel chrétien orthodoxe Rod Dreher, un ami du vice-président américain J.D. Vance, qui l'a accompagné lors de sa visite au nouveau pape Léon XIV, coup de patte au passage, qui est venu prendre le thé au château, Dreher, qui s'est installé en Hongrie par soutien à la politique civilisationnelle de son premier ministre Viktor Orban. J'aime bien cette manière d'écrire un article où il y a à chaque fois une note en bas de page où il y a marqué « salaud »,« traître ». Voilà, on essaie d'avoir du name-dropping au maximum pour dire, au cas où les gens ne comprendraient pas qui est Curtis Yarvin ou Rod Dreher, je mets tout de suite Viktor Orban, ce sont des lecteurs du Monde, ils comprendront que c'est un salaud. Ce Dreher, qui s'est installé en Hongrie, apprécie les thèses de Camus sur le déclin culturel de l'Europe. Enfin, le suprémaciste blanc Jared Taylor est venu offrir au maître de Plieux une pierre taillée en hachoir aux bords acérés d'époque archaïque amérindienne, comme s'il accomplissait un rite païen voué à reconnaître en Camus un maître. Alors, là, les gens débarquent chez vous à Plieux avec des haches polies amérindiennes ou ramassées dans l'Ardèche.
C'est en effet exact. J'étais extrêmement sensible. C'est un objet absolument merveilleux. Jared Taylor vit je ne sais où en Amérique, et il a eu la gentillesse de m'apporter, pensant que ça me ferait grand plaisir, et c'est exactement ce qui s'est passé, une pierre ancienne, mais vraiment très 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 ancienne et très belle, que j'ai sur mon bureau, et dont je lui suis extrêmement reconnaissant. Voilà au moins quelque chose qui est exact.
L'idée que vous soyez l'éminence grise, ou plutôt l'éminence noire de cette nouvelle peste des esprits, c'est quelque chose qui vous paraît vraisemblable, ou c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la lecture a posteriori des événements?
Alors, d'une part, c'est probablement extrêmement exagéré, mais surtout, à l'intérieur de ce petit livre, ça ne tient absolument pas debout, puisque je n'ai pas d'existence. Je suis un écrivain insignifiant, carriériste. Vous pensez d'un carriériste qui va s'enterrer à la campagne dans un village perdu à 800 km de Paris, qui n'a jamais la moindre relation avec la société littéraire parisienne. C'est une drôle de conception du carriérisme. Enfin, c'est ce que je suis, un petit ambitieux qui a quelquefois été déçu dans ses ambitions. Donc un personnage totalement insignifiant. Mais en même temps, c'est le diable qui a une influence sur les puissants à travers le monde. Alors, il y a une contrariété, puisque à quoi tient cette influence? Et alors de ça, on n'a pas la moindre idée, puisque mes livres ne sont même pas nommés. Elle tient à deux mots, grand remplacement, ce qui est très fort. Si j'avais une telle influence à partir de deux mots, mais tout ce qui peut être théorique dans mon travail est totalement ignoré d'eux. Enfin, apparemment, je crois qu'ils ne l'ont même pas lu. Il n'y a pas la moindre allusion. Si une fois, je crois, ils nomment l'innocence, qui est aussi le concept central un des concepts centraux, en tout cas, de mes petits travaux. Il le nomme une fois, ou bien du sang, enfin, tous les livres, la dépossession, par exemple, qui est mon livre le plus technique, si je puis dire, quant aux origines du grand remplacement, n'est nulle part nommé, ni décolonisation, bien sûr, ni la destruction des Européens d'Europe, et même du sang, ce qui est un peu le livre le plus philosophique, si j'ose dire, devant Rémy Soulier, est évoqué pour quelque chose de tout à fait trivial. Je ne sais plus pourquoi, mais enfin, il est expédié en une ligne et demie. Donc, il y a un mystère total. À quoi tient cette influence maléfique à travers le monde, puisqu'il n'y a pas d'œuvre et même pas d'écrivain. À aucun moment, il ne dit que c'est un écrivain. Donc, mystère total et légère contradiction.
Alors, un auditeur de Radio Courtoisie nous dit « Bonsoir Monsieur Camus, tous mes remerciements pour votre courage, votre lucidité et vos talents d'écrivain. J'ai pensé à vous en prenant le métro et en croisant une Africaine entourée de 4 bambins et 2 bébés dans les bras. Ravi de vous entendre ce soir. » Alors, donc effectivement, moi aussi je suis ravi de vous entendre ce soir. Vous avez prononcé plusieurs mots comme « grand remplacement » et « dépossession ». Alors, puisque les journalistes du Monde n'ont pas fait le boulot d'en parler, eh bien justement, profitons de ce soir pour en parler. Je suis reparti pour ça de votre dernier ouvrage, « Décolonisation », donc voilà, publié aux éditions du Château. Et où vous revenez justement sur la manière dont, en quelque sorte, la France serait colonisée et à force d'être grand remplacé, il y a les remplaçants, les remplacistes. Attention, cette pensée et ces mots qui peuvent paraître plaisants sont en fait fondés effectivement sur une série de concepts bien précis. Le grand remplacement, c'est celui qui est le plus fameux, changement de peuple et de civilisation, submersion migratoire. Vous me permettez effectivement à François Bayrou d'intervenir dans vos œuvres, et donc voilà, qui les valide d'une certaine manière. Génocide par substitution, que vous empruntez à Aimé Césaire, et qui effectivement théorise le génocide par substitution, changement de peuple et de civilisation, voilà. Et aussi dépossession, qui est quelque chose, à mon sens, de plus central dans votre œuvre, en fait. Voilà. Et donc, je vous cite, puisqu'il y a un petit glossaire à la fin de décolonisation, « La dépossession générale est l'effet global du remplacisme du même nom. N'en est exempte que l'hyperclasse, et encore, car elle est elle-même déculturée dans et par le dispositif, et son espace se réduit sans cesse à l'intérieur du bidon monde. La dépossession n'est pas simplement matérielle, paupérisation, elle est aussi sociale et culturelle, prolétarisation, déculturation, spatiale, spirituelle et ontologique. Elle porte sur l'être même, l'ens, l'entité, réduit au mieux à l'identité, c'est-à-dire au même à l'identique. Dans la langue, elle se traduit par le remplacement d'il y a par vous, vous avez. Plus l'être est dépossédé de lui-même et de tout, plus le Babil ambiant lui dit « vous avez ». Sinon, vous avez Wagner aussi, c'est pas mal. Voilà. Alors, reprécisez ce que cette dépossession a de fondamental dans votre évolution littéraire, dans votre combat culturel, dans la manière dont vous êtes passé des pique-niques à la factory d'Andivarol aux apéros saucissons pinards organisés par les identitaires.
Eh bien, autant le grand remplacement n'étant d'aucune façon une théorie, mais un constat, autant j'ai en effet une théorie que j'appelle le remplacisme global, qui repose sur l'observation que l'acte de remplacer, le remplacement, est le geste fondamental des sociétés contemporaines ou modernes, qu'on peut appeler post-industrielles, d'autres appellations plus ou moins à la mode et plus ou moins pertinentes. Je pense que tout est remplacé dans notre monde, ce qui fait d'ailleurs que tout est faux. Le remplacement est lié à ce que j'appelle le faux sel, c'est-à-dire le réel faux. Le faux est partout, y compris évidemment dans les matériaux. Le marbre est remplacé par je ne sais quoi, le complanchien, la pierre est remplacée par le ciment, la littérature est remplacée par le journalisme, le journalisme est remplacé par l'intoxication, les hommes sont remplacés par les femmes, les hommes et les femmes sont remplacés par les robots. Le remplacement est l'objet central, à mon avis, le geste central de la modernité. Or, pour que tout soit remplaçable, il faut, et pour que ce remplacement atteigne l'homme, ce qui est la phase ultime du remplacisme global, il faut que l'homme soit dépossédé de tout, c'est-à-dire en particulier de toutes ses appartenances, la famille, la nation, la culture, la religion, tout ce qui le constituait doit lui être enlevé. Donc la possession est absolument centrale, c'est la traduction du remplacisme global. Nous avons des êtres dépossédés de tout, qui n'ont plus de famille, qui n'ont plus de nation, qui n'ont plus de région, qui n'ont plus de province, qui n'ont plus d'histoire, qui n'ont plus de passé, qui n'ont plus de futur, et qui sont des sortes de zombies réduits à une sorte de présent hébété, et qui n'ont plus aucune appartenance. C'est un synonyme de la désappartenance ou de la désaffiliation, si vous voulez. C'est aussi ça. Il n'y a plus un monde de fils de personne, comme en témoigne, par exemple, le remplacement du nom par le prénom. J'ai écrit un livre qui s'appelle « La civilisation du prénom ». Vous avez remarqué que les gens n'ont plus que des prénoms, c'est-à-dire ce qui n'appartient qu'à eux, mais qui ne les inscrit nulle part. Les gens se disent, même des problèmes de présentation, disent, bonjour Philippe, oui mais Philippe quoi? C'est le nom qui est inscrit dans le temps, qui est dans la filiation, dans l'héritage. L'héritage a été rejeté comme coupable et injuste, ce qu'il est d'ailleurs, absolument, l'héritage est injuste. Enfin, sans héritage, il ne peut plus y avoir de société cohérente. On vit dans un monde d'inhéritiers. J'ai un petit livre qui s'appelle « Les inhéritiers », évidemment en réponse à Bourdieu et à ses héritiers, en lui donnant raison d'ailleurs. Il est vrai que l'héritage est une injustice, dont il en conclut que personne ne doit hériter, ce qui est exactement ce qui s'est passé. Les Bourdieusiens ont fait en sorte que personne n'hérite plus de rien, en tout cas culturellement, mais aussi financièrement, mais aussi les objets, les maisons, enfin les gens ne succèdent plus à rien. Ils sont chaque fois en effet fils de personne. Et oui, la dépossession est tout à fait centrale dans ma réflexion. Pour que l'homme soit échangeable, remplaçable, ce qui est le crime par excellence contre l'humanité de l'homme, puisque la dignité de sa présence sur la Terre, c'est d'être irremplaçable, il faut qu'il soit dépossédé, aliéné, désaffilié.
La Nouvelle France est celle du grand remplacement, dit Jean-Luc Mélenchon.
Oui.
Donc, moi je vois deux choses à ce propos. Un, c'est que le grand remplacement n'est donc pas qu'une théorie de Renaud Camus, mais bien un constat. Et deux, pourquoi est-ce que c'est vous le porteur de cette peste, alors que c'est la volonté de Jean-Luc Mélenchon de faire advenir le grand remplacement?
Alors, il y a eu un renversement très intéressant dans les années récentes. Pendant 20 ans, la grande question était de savoir s'il y avait un grand remplacement ou pas. Et tout le monde disait... Non, il n'y a pas de grand remplacement, c'est une théorie du complot, c'est une illusion, c'est une invention de machin truc, ça n'existe pas. Et c'était le discours de ce que j'appelle le bloc négationniste génocidaire. Il était négationniste, la forme la plus vivante du négationnisme aujourd'hui, enfin à cette époque, c'était la négation du grand remplacement. Or, mes deux biographes arrivent un peu tard, ils sont très démodés parce qu'ils perpétuent cette tradition négationniste. Ils disent que non, il ne faut pas parler de grand remplacement, le grand remplacement c'est la peste. Enfin, cette phase est totalement dépassée, y compris dans leur milieu et dans leur milieu idéologique. La question n'est plus du tout de savoir s'il y a un grand remplacement ou pas un grand remplacement. Ça, c'est tout à fait admis de nos jours, hein, d'ailleurs. C'est totalement incontestable. La question de savoir si on l'aime ou pas, si on en est partisan ou si on en est un adversaire. Moi, j'en suis un adversaire désespéré et furieux. Jean-Luc, enfin, pas tout à fait désespéré, d'ailleurs, mais furieux, certainement, et très malheureux. Enfin, je trouve que c'est le crime contre l'humanité du XXIe siècle. Et pour Jean-Luc Mélenchon, c'est une bénédiction du ciel, c'est un monde nouveau qui commence, absolument merveilleux, mais où la France ne sera plus la France, en tout cas sera la France sans les Français.
Alors, cette dépossession trouve évidemment dans le fait d'arracher aux gens, d'arracher les gens à leur culture, à leur identité, à leur histoire, à leur religion, un puissant adjuvant avec l'immigration, puisque si on fait venir des gens qui ont une autre identité, une autre culture, qui a une autre langue, une autre religion, bah, évidemment, ça devient plus compliqué que la société s'organise dans la perpétuation de ce qui est contesté par le nouvel arrivant. Je me permets de vous citer. J'ai toujours dit et soutenu, et notamment au temps où était encore envisageable l'intégration et peut-être même l'assimilation, qu'il était parfaitement possible pour une nation, une société, une civilisation d'intégrer ou d'assimiler, comme la France a toujours fait, des individus, et notamment, bien sûr, des individus qui agiraient par amour de leurs amours, mais aussi par amour de la société d'accueil. Est tout à fait impossible d'intégrer des peuples, surtout des peuples nombreux, rapidement majoritaires, dans leur zone particulière d'installation, lesquels s'étendent et se rejoignent comme autant de taches d'encre sur du papier buvard. Et tout particulièrement, bien sûr, des peuples à la très forte et très fière identité de peuple, de culture, de langue, de religion et de race, qui, à bien des égards, sont à peu près la même chose et de même effet. Voilà. Donc, on se retrouve avec les populations de souche, pour parler de cette manière-là, et comme certainement ça énerverait Jean-Luc Mélenchon, les populations de souche sont dépossédées de leur langue, de leur culture, de leur religion, parce que d'autres peuples s'installent, on les appelle, et donc ceux qui les appellent, ce sont les remplacistes, qui ne sont pas forcément les remplaçants.
Ah, les remplacistes ne sont pas les remplaçants, non. Encore que maintenant, il peut y avoir, les remplaçants deviennent quelquefois remplacistes par intérêt, mais fondamentalement, ils ne le sont pas du tout. Les remplaçants ne sont pas remplacistes. Ils ont au contraire une très forte identité dont ils sont extrêmement satisfaits. Pour des raisons politiques, des élections municipales ou quelque chose comme ça, ils peuvent se proclamer remplacistes. Mais je ne crois pas beaucoup à leur sincérité sur ce point. Non, les remplaçants sont très peu remplacistes. Ils ont une identité dont ils sont enchantés, une religion qu'ils adorent souvent, une langue, une culture, une civilisation qui a eu des moments grandioses. Ils ne sont pas du tout remplacistes. Ils sont très contents de leur identité. Ils se trouvent en face de gens qui ont été dépouillés de toute identité, de tout prestige, de toute histoire, de toute dignité, de toute innocence, qui sont des coupables dont les crimes n'ont d'issue que l'oubli, dont l'excuse que l'oubli, la désuétude, l'inintelligibilité.
Et d'abord, avant d'être totalement effacé, c'est effectivement cette repentance qui conduit à quelque chose d'inédit dans l'histoire. Je vous cite encore, toujours est-il, enfin je cite à chaque fois Décolonisation, votre dernier ouvrage, toujours est-il que les siècles n'avaient jamais vu avant le nôtre que les colonisés se saignassent aux quatre veines, volontairement si l'on peut dire, démocratiquement en tout état de cause, et c'est bien loin d'être la même chose, pour assurer leur propre asservissement, leur remplacement par d'autres peuples à première vue assez mal disposés à leur égard, et finalement leur éradication progressive, leur génocide par substitution. Je redis que c'est une expression d'Aimé Césaire. Mais un autre fait sans précédent dans l'histoire des colonisations, parmi ceux que présente la nôtre, l'actuelle colonisation de l'Europe, c'est son caractère triangulaire. Se manifestent en elle trois parties, comme dans le grand remplacement, remplacé, remplaçant, remplaciste. Elle n'est pas exécutée par cela, ou peut-être plutôt par cela, le remplacisme global, la davocratie, le dispositif dit Machenschaft, qui la mettent en branle. On pourrait dire d'elle ce que dit Jean Cocteau de la mort, cette vieille statue, ce n'est pas la mort elle-même qui tue, elle a ses assassins. Les colons ne sont pas les colonisateurs, les remplaçants ne sont pas les remplacistes, l'occupant n'est pas l'occupateur.
Oui.
Rémi Soulier, par rapport à cette thèse développée dans Décolonisation, qui évidemment, une fois qu'on a expliqué qu'il y a des colons et des colonisateurs, et donc la France, en quelque sorte, est devenue une terre de colonisation. Ce que dit décolonisation, c'est qu'il serait peut-être temps, justement, de se décoloniser. Et de même que Jean-Luc Mélenchon valide le grand remplacement, eh bien, Renaud Camus valide le fait de décoloniser, qui était un mot qui appartient plutôt au camp d'en face.
Oui, et d'ailleurs, à destination des auditeurs de Radio Courtoisie, je précise que ce livre-là, Décolonisation, est peut-être parmi les livres de Renaud Camus, les essais, ceux qui parmi les auditeurs pourraient être un peu effrayés par le volume des ouvrages successivement intitulés Le Grand Remplacement, peuvent accéder à un panorama très synthétique de la pensée de Renaud Camus à travers cet ouvrage-là, Décolonisation. C'est alors, vous parliez, Renaud Camus, Richard de Sèze, du remplacisme global, effectivement, en tant que théorie, disons, mais c'est une théorie qui, je crois, est avérée, mais quoi qu'il en soit, qui est extrêmement fructueuse, parce qu'elle va au cœur, elle va à la racine de ce à quoi nous assistons. Vous l'avez dit et répété à travers un certain nombre de formules sur la matière humaine, le Nutella, enfin vous avez la pâte humaine qui est tout à fait qui peut être brassée en quelque sorte industriellement, et à travers d'ailleurs cette neutralisation qu'est la dépossession. Et c'est aussi référence à ce que vous disiez tout à l'heure, Renaud Camus, il y a parmi les mots les plus virulents qui sont opposés à cette théorie-là, et parmi les reproches qui sont formulés à ceux qui la soutiennent, c'est très révélateur, il y a le reproche immédiatement d'essentialisation. Vous essentialisez un individu, un peuple, et cette manière de... Il y a des mots-clés comme ça, alors il y a le mot démagogie, le mot populisme, le mot complotiste, ça c'est le plus puissant actuellement, hein. et le mot essentialisation, effectivement, c'est une manière de... Mais vous assignez à résidence identitaire les individus et les peuples, alors que d'identité, il n'y a pas, précisément, ou il n'y a plus, et ne parlons pas même d'entité, comme vous le soulignez très justement, en distinguant les deux, hein, l'entité et l'identité, et le caractère précieux de l'entité est plus précieux que l'identité même. Donc tout ceci est aussi révélateur des barrages idéologiques, pseudo-moraux, qui sont opposés systématiquement à ceux qui décrivent le monde tel qu'il est. C'est-à-dire qu'on assiste, je dis la même chose avec des mots différents, mais peu importe, cette dépossession, c'est un grand mouvement d'abstraction, et d'exérèse même, d'ablation. C'est pour ça que c'est très douloureux, parce qu'une exérèse, c'est une opération, on vous enlève des organes, on vous décorporalise, on vous désorganicise en quelque sorte. Et ce mouvement d'abstraction qui est évidemment suivi et concomitant avec l'autre mouvement qui est le mouvement de numérisation, qui est les deux sont des mouvements de gazéification. Comme disait René Guénon dans Le règne de la quantité et le signe des temps, il pointait des étapes. Hein. On est passé de la solidification à la liquéfaction. La liquéfaction se trouve dans Le règne de la quantité et le signe des temps de René Guénon, publié en 1945, bien avant Zygmunt Bauman, hein, tel quel le mot liquéfaction. Et puis donc, troisième étape, disait René Guénon en 1945, la gazéification. C'est ça, c'est la pulvérisation des êtres. Et au nom, alors là aussi, d'une lutte contre les essences, mais au nom aussi, comme si les essences n'existaient pas, comme s'il n'y avait pas d'essence, bon, au nom aussi de, c'est un des grands mots des contemporains qui n'entendent rien à ce qui est en train ou qui ne voient pas ce qui est en train de se produire, au nom de l'universalisme. C'est aussi un mot qu'ils ont à la bouche en permanence, l'universalisme. On voit sur des comptes X laïques, antiracistes, universalistes, comme si ces mots-là avaient quelque signification profonde que ce soit. Pas du tout, ce sont des mots d'ordre, ce sont des mots d'ordre idéologiques, ce sont des slogans, mais qui couvre l'anéantissement d'un peuple, des peuples et d'une civilisation. C'est pourquoi je considère, enfin, la théorie entre guillemets du remplacisme global décrit d'une manière, je crois, parfaitement exacte ce qui est en train de se passer. Et Renaud Camus mène cette réflexion avec, d'ailleurs, des philosophes. On parlait tout à l'heure de philosophie avec Heidegger, avec Günther Anders. Enfin, c'est une réflexion qui est très approfondie. On pourrait penser aussi à C.S. Lewis, hein, à l'obsolescence de l'homme. On est vraiment. On a eu aussi des entre guillemets des lanceurs d'alerte. On a eu de grands esprits, souvent d'ailleurs des spirituels, hein, des écrivains qui ont été animés par un souci spirituel, d'une manière ou d'une autre, à quelques traditions qu'ils appartiennent. Et ce fait-là, nous le voyons se déployer sans vergogne, et on voit criminaliser ceux qui le décrivent tel qu'il est.
Tout à l'heure, lorsque vous avez la gentillesse de lire ce texte de moi, il y a quelque chose qui ne passe pas à l'oral et qui est très, très important. Je fais une distinction parmi les remplacistes. Je dis, vous disiez « à cela ». S-E-U-X-L-A, ou à cela, car le remplacisme global tout à fait au centre, au niveau maximum de concentration, est plutôt quelque chose que quelqu'un, plutôt un mécanisme, une machine, la machination, pour parler comme Heidegger, que nécessairement des personnes. Le degré de concentration est tel que ça ne désigne plus personne, ce qui n'exonère et n'innocente en aucune façon ceux qui servent à la machination. La machine a des desservants, elle n'a plus que ça d'ailleurs, ce que j'appelle le bloc génocidaire, c'est-à-dire ceux qui œuvrent à la réalisation de ce que demande la machination. J'avoue que j'aime beaucoup ce mot de machination à cause de son amphibologie. C'est aussi évidemment, il peut y avoir l'idée d'un dessein, même peut-être d'un complot, enfin d'une intention, mais surtout, c'est la machination de l'homme. L'homme, qui est déjà le produit, le producteur et la consommation, devient la machine elle-même. Il n'en est plus seulement le desservant, il en est l'âme, oui, si j'ose dire, oui, paradoxalement. Le moteur, l'anima. Je me permets de revenir sur votre lecture, parce que c'était probablement inintelligible quand on ne le voit pas écrit. Je m'en suis avisé, j'aurais dû être plus prudent et faire en sorte que ça se comprenne, même à l'oral. Enfin,
voilà, tous vos livres ne sont pas faits pour être lus à voix haute. Il y a cette colonisation voulue, ce génocide par substitution, une fois plus, pour reprendre les mots d'Aimé Césaire. Et bien sûr, on se dit, très bien, puisque nous sommes colonisés, grands remplacés, pour parler comme Jean-Luc Mélenchon, faisons effectivement comme certains des émules le Parti des indigènes de la République, appelons nous aussi à la décolonisation, mais il ne s'agit pas juste de décoloniser les esprits, décolonisons la France, et effectivement, renvoyons ces colons qui se penchent, certains comme étant effectivement des gens venus en France pour la transformer, et parfois venu appelé par d'autres qui veulent remplacer la France, sans que pour autant celui qui débarque ait cette pensée mauvaise. Et vous nous dites, utilisons la remigration. La remigration est la conclusion tirée du constat et d'une inappartenance, au contraire, d'un défaut d'appartenance, appartenance et inappartenance qui ont été parfaitement clairs pour tout le monde pendant des siècles, qui le sont encore pour la plus grande partie de l'humanité et de très loin, et même, au fond de même, par la plus grande partie et de très loin de la population française et européenne, occupants coloniaux et indigènes confondus. Voilà. Donc, vous disiez tout à l'heure, vous n'étiez pas si désespéré que ça, et donc la solution de la décolonisation, c'est la remigration.
Oui, si je peux revenir sur l'agencement de mes livres relatifs à ces questions-là, qui ne sont pas les seuls, je sais, le constat, c'est le grand remplacement, en aucune façon une théorie. Ensuite, il y a une théorie, qui est le remplacisme global, et ce sont des livres comme du sens, la dépossession, la destruction des Européens d'Europe. Et puis on me dit, oui, mais vous faites un constat, mais ça ne suffit pas. Vous faites une théorie, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors la décolonisation répond à ça, parce que à partir du moment où on observe que nous sommes en effet victimes d'une colonisation, et je pense que nous sommes 20 fois plus colonisés, 100 fois plus colonisés que nous n'avons jamais colonisé nous-mêmes, parce que l'essence de la colonisation, c'est le transfert de population. Et il y a 100 fois plus d'Africains en France qu'il n'y a jamais eu de Français en Afrique au temps de la colonisation nord-sud. Nous sommes extrêmement colonisés, et à partir du moment où on appelle la situation colonisation ce que je crois profondément juste, car c'est, alors pour le coup, dans l'essence du terme, depuis l'Antiquité, la colonisation, c'était le transfert de population dans la Grèce antique, entre les cités grecques et la Grande Grèce, la Sicile ou la Calabre. Et à partir du moment où on reconnaît ce terme de colonisation, la solution est évidente. D'ailleurs, toutes les colonisations en général se sont terminées par la décolonisation, et la colonisation est synonyme de la remigration. Et l'exemple, l'archétype étant, pour les Français en tout cas, l'Algérie. Quand l'Algérie est devenue indépendante, des gens qui étaient là depuis 130 ans, des générations, ont dû partir avec une violence dont Dieu sait que je ne recommande pas qu'on limite. Mais structurellement, la solution, la décolonisation, c'est la remigration. Les deux mots sont quasiment synonymes. Et le monde entier n'a trouvé aucune espèce d'inconvénient à l'époque à cette remigration, qui a été pourtant extrêmement cruelle et même qui a compris des massacres. Et Dieu merci, et Dieu sait que je ne suis absolument pas partisan de cette manière forte et de ces violences. Je suis pour l'innocence, pour la non-nocence. Mais il y a des moments, des moyens d'imposer la remigration, ou même de la rendre souhaitable ou désirable, ou au moins de faire en sorte que la présence ne soit pas utile, désirable. Oui, qu'elle est un intérêt pour les peuples qui l'exercent, mais il faut la remigration. Il n'y a pas de décolonisation sans remigration.
Il y avait un sujet sur lequel j'aurais souhaité qu'on parle quelques minutes. Avec notre invité précédent, on a brièvement parlé de l'appauvrissement de la lecture en France. Les chiffres, c'est 75% des Français lisent un livre par an et 45% lisent tous les jours. Moi, il y a quelque chose qui me choque profondément, c'est l'absence totale de connaissances culturelles, de maîtrise de l'histoire, d'intérêt pour notre civilisation qu'il y a chez les jeunes aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'un des projets, si on peut appeler ça, politique, c'est de poursuivre cet appauvrissement, pardon, et même cet abêtissement, en fait, dans le sens rendre bête, enfin, oui. Comme des moutons, quoi.
Imbécilisation.
Vraiment. Voilà. Et voilà, j'aurais aimé avoir votre avis sur cette question qui, pour moi, contribue aussi au grand remplacement civilisationnel, en fait. On a un oubli total de ce qu'est notre histoire. Et puis, on a cette envie... Enfin, pardon, faut pas que j'utilise « on », mais il y a une envie chez certains dirigeants de nous rendre nécessairement coupables de ce qui s'est passé dans le passé. Je vous donne un exemple tout bête. Je me souviens, quand j'étais en classe de 3e, d'un voyage scolaire en Allemagne. À aucun moment, en Allemagne, on fait sentir aux jeunes Allemands qu'ils ont pu être responsables de ce qu'ont fait leurs arrière-grands-parents pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, par exemple. En tout cas, les jeunes d'aujourd'hui ne se sentent pas responsables de leur histoire. J'ai l'impression que nous, en France, c'est tout l'inverse. On nous fait en permanence sentir responsables de ce qui s'est passé. Vous donniez l'exemple de l'Algérie, donc prenons l'exemple de l'Algérie, par exemple. Nous sommes sans cesse les fautifs, et donc pour cette raison, on va complètement nier votre histoire, on va complètement nier votre civilisation, et on a cette envie de piétiner et d'appauvrir absolument tout.
Vous croyez que vous prêchez un convaincu.
Mais vous allez sûrement l'expliquer avec un raisonnement plus intelligent que les propos que j'ai
faits. Je n'ai rien à rajouter quant au fond de ce que vous résumez excellemment, mais le concept de grand remplacement, un frère jumeau, ou un petit frère, qui est le petit remplacement. Et il y a un livre de moi qui s'appelle Le Petit Remplacement, qui est en fait un recueil de 7 essais précédemment parus différemment, indépendamment, ce qui fait que c'est un livre très, très épais, dont des civilisations, la civilisation des prénoms dont je parlais tout à l'heure, j'oubliais les titres des autres, mais enfin, il y a 7 volumes dans le petit remplacement. Et mon idée est évidemment que le petit remplacement, c'est-à-dire le changement de référence culturelle, et même de classe de référence culturelle, est absolument indispensable au grand remplacement. Que le grand remplacement n'aurait jamais pu faire survenir sans cette imbécilisation de masse qui consistait en la destruction de l'école, à la coupure de la transmission est devenue non seulement impossible, mais même coupable, puisque là, Bourdieu joue un rôle évidemment central. Il a relevé que l'héritage était inégal et injuste, et il l'est profondément. Et d'où les autres ont conclu que puisque l'héritage était inégal et injuste, il ne fallait qu'il n'y ait plus d'héritage. Exemple, la suppression des examens de culture générale à sciences politiques, par exemple. La culture générale est en effet inégale par essence, puisqu'elle est plus liée en général aux familles qu'à l'enseignement scolaire. Donc c'est très inégal. Et à partir de ce bon point d'appui solide, l'inégalité, on supprime l'héritage. Et évidemment, un des éléments de la dépossession dont nous parlions tout à l'heure, c'est que c'est un monde d'inhéritiers, de gens qui n'héritent plus de rien, même plus de nom, même plus de tradition de famille, même plus de maison de famille. C'est ce que j'appelle le dacapo perpétuel. Chaque matin est un jour nouveau, on commence. Par exemple, la suppression, évidemment, de la chronologie, non seulement dans l'histoire, mais dans la littérature. Alors, on leur apprend de vagues notions, mais qui sont suspendues dans l'air, qui n'ont aucune relation les unes avec les autres, de sorte que les gens ne savent plus si Louis XIV est avant Jeanne d'Arc ou après. Et la même chose pour l'histoire de l'art. Quelquefois, les gens connaissent un peintre ou deux peintres, mais non, ce n'est absolument pas inscrit dans un système chronologique, de sorte que ça n'a pas de signification, ça n'a pas de sens. On ne voit pas ce qu'il y a avant, on ne voit pas ce qu'il y a après. C'est le présent perpétuel hébété, mais bien entendu ce que j'appelle le petit remplacement ou l'imbécilisation de masse est la condition nécessaire au grand remplacement, au changement de peuple, au génocide par substitution.
Donc c'était le petit remplacement était en fin de compte la première étape de ce qu'est le premier projet, si je puis dire, de ce qu'est le grand remplacement.
Oui, mais avec un effet cumulatif en même temps. Le grand remplacement accélère aussi le petit, oui, une fois qu'il est là. Parce que quand il y a des classes où les trois quarts des élèves sont des remplaçants, il est difficile de continuer la tradition.
Renaud Camus, plusieurs auditeurs nous font parvenir des messages, et notamment celui-ci. Avez-vous choisi le terme « grand remplacement », notamment en référence au grand dérangement ?
Absolument. Oui, tout à fait. J'ai beaucoup pensé, j'ai toujours été très sensible au grand dérangement. C'est quelque chose, un épisode vraiment horrible, un des plus sombres et dramatiques de l'histoire, ce qu'on peut appeler quand même l'histoire de France, même si ça se passe sur un autre continent. Oui, j'ai toujours eu ça en tête, je pense...
Je crois qu'il serait nécessaire que vous précisiez pour une partie des auteurs de Radio Courtoisie ce qu'est exactement
alors,
cet
grand,
épisode du grand dérangement.
Le grand dérangement qui est tombé dans l'oubli très tôt, peut-être parce qu'il gâchait un peu leurs relations avec les Anglais, je n'en sais rien, c'est le déplacement des Français du Canada, et en particulier d'Acadie, qui ont été chassés sur des milliers de kilomètres, qui se sont retrouvés...
Que les Anglais ont déportés en les affamant et en ne traitant pas leur maladie.
Oui.
Donc voilà, ils sont comportés en véritables Anglais. Et donc ce grand
Oui, si. En l'occurrence, ils ne se sont pas très bien comportés. Mais enfin, les Anglais sont souvent très bien comportés.
Très
anglophile.
Avec les populations colonisées, enfin, c'est plutôt massacre, terreur. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Accordez-moi les Anglais, je vous accorde tout le reste. Et un autre auditeur nous dit « Merci pour cette émission passionnante et la présence de M. Camus. Ce peuple qui a rejeté son héritage, sa culture et épousé des valeurs dépravées ne mérite-t-il pas ce qui lui arrive ?»
Sans doute, mais non, il est tout de même victime de la machination. Quelqu'un a voulu la destruction, ou quelqu'un ou quelque chose, comme nous le disions tout à l'heure, la volonté universaliste et d'échange général de l'homme réduit au statut de matière humaine indifférenciée, impliquait le triomphe de la bêtise et... la destruction de l'école, qui est quand même l'élément essentiel dans l'imbécilisation de masse, le fait que l'école n'a plus aucune signification. Je pense que dans le grand remplacement, la loi Abi, par exemple, imposant le collège unique, a un rôle presque aussi important que la loi du regroupement familial.
Il y a dans ce grand remplacement un état de fait, il y a des gens qui sont des remplacistes, l'Union européenne appelle à la migration des peuples, on dit bien migration, on dit migrant, on ne dit plus immigrant, le fait de rentrer quelque part n'existe pas puisqu'il n'y a plus de quelque part, il n'y a plus qu'un ensemble spatial indifférencié, prétendument indifférencié. Et on sent que ce grand remplacement, que maintenant plus personne ne nie et que certains célèbrent, est malgré tout supporté par ce que vous appelez la préférence occupante. Voilà. Et donc, symétrique et contraire à la préférence nationale imaginée, nommée et appelée de ses voeux par Jean-Yves Le Gallou, la préférence occupante est le nom de l'hallucinant deux poids deux mesures et des invraisemblables préférences, indulgences, mansuétudes que témoigne la grande presse, mais plus encore la justice elle-même, en faveur de l'occupant colonial et de ses crimes. Et enfin, ça fait partie du petit lexique qui clôt décolonisation.
Alors, la préférence occupante et manifestation, manifestement une référence à la fameuse préférence nationale de mon ami Jean-Yves Le Gallou, mais il y a manifestement chez les juges à deux poids deux mesures absolument hallucinant. Enfin, dans les condamnations, on peut prendre 6 mois et des amendes énormes, j'en sais quelque chose, pour un tweet ou pour quelque chose comme ça, alors qu'on peut violer des gens et commettre des crimes épouvantables et on est à peine condamné parce qu'on ne connaissait pas les codes culturels.
Je me permets de vous interrompre, ça fait effectivement partie des arguments mobilisés par les avocats pour expliquer que la personne qui a violé, arrivant d'un pays plus patriarcal que le nôtre, donc n'ayant pas les codes culturels, doit être exonéré de sa faute.
Voilà. Ce qui est d'ailleurs complètement paradoxal, puisque ils passent leur temps à nous dire qu'il n'y a pas de culture, il n'y a pas de civilisation, et en revanche, c'est l'argument phare, oui, mais le pauvre, il ne savait pas qu'on ne viole pas une femme de 96 ans, par exemple, comme on a pu l'entendre il y a quelques semaines à peine. C'est complètement paradoxal et...
La préférence occupante est une des manifestations les plus manifestes, les plus tangibles, les plus évidentes de ce que j'appelle le bloc génocidaire, c'est-à-dire des gens qui servent la machination à la destruction, pour la destruction des Européens d'Europe. Et la question de la loi ne pourra pas se poser un jour. Vous savez, dans Sophocle, c'est un topos des romans policiers depuis Sophocle, où c'est l'enquêteur qui est le criminel. Mais là, nous sommes allés à un degré plus loin. Le criminel, c'est la loi. Toute la loi veut le grand remplacement, veut le génocide par substitution. Non seulement la loi française, la loi européenne, tous les traités et toutes les conventions internationales. Il est absolument impossible de sortir de cet effroyable génocide par substitution sans une abolition de la loi, sans un coup d'épée dans le nœud gordien juridique qui nous en sert. Dès que quelqu'un prend une décision, que même c'est une des habiletés du bloc génocidaire, on dit de temps en temps, ah oui, non, là, cette fois-ci, on va vraiment procéder à des expulsions, non pas massives, je crois pas qu'ils soient allés jusque-là, mais on va expulser. Mais on sait très bien que l'expulsion n'aura pas lieu, car de tous les côtés, on est entouré par des lois et par des juges. Les juges sont certainement avec... les journalistes et les élus, les membres par excellence du bloc génocidaire.
Je me permets de vous citer, en Angleterre, voilà, c'est mon petit coup de pied de l'âne, vous me pardonnerez, en Angleterre, cette préférence occupante, sous un autre nom naturellement, est désormais inscrite dans la loi comme une exigence de l'antiracisme, ce qu'elle est bel et bien d'ailleurs.
Oui. Voilà.
Donc oui, la loi nous en sert. Il nous reste très peu de temps, Renaud Camus. Un dernier mot sur, non pas évidemment l'ouvrage du Monde, mais sur le sens de ce combat que les gens suivent avec intérêt, qui vous vaut non pas la reconnaissance de Saint-Germain-des-Prés, mais une notoriété qui arrive jusqu'aux gens qui vous offrent des haches amérindiennes. Vous avez le sentiment, contrairement à ce que disent les gens du Monde, que votre trajectoire est celle... d'un homme qui essaye, au contraire, de servir le bien commun et l'intérêt général.
Oh, je n'aurais pas des mots nécessairement si vertueux, mais ma trajectoire est celle d'un homme obsédé par l'exigence de vérité. Mes gentils biographes on soulignait qu'entre à l'âge adolescent, j'étais un peu mythomane. Et il y a quelques manifestations de mythomanie. Et la mythomanie a passé d'un seul coup vers 20 ans. Et je suis passé avec armes et bagages, à son contraire, l'obsession de la vérité, avec l'idée que la tâche d'un écrivain était de se porter dans tous les coins les plus obscurs, les plus propres à recevoir des coups d'une société. Et il y en avait un qui était particulièrement évident, c'était tout de même ce changement de peuple et de civilisation qui crevait les yeux comme il crève le cœur, ainsi que j'aime à dire, et dont personne ne parlait. Donc, moi, je me vois parfaitement cohérent. On me dit, il a raconté ses aventures sexuelles à 30 ans, mais c'était la condition. Il fallait vraiment tout dire. Et ça impliquait aussi que je ressusse les biographes et leur laisse absolument se livrer à toutes les enquêtes qu'ils voulaient sans rencontrer le moindre obstacle dans leur noir dessin.
Bon, merci beaucoup Renaud Camus. Rémi Soulier, à vous le mot de la fin en une minute.
En une minute, songeant aux derniers propos, aux avant-derniers propos de Renaud Camus et concernant la remigration, je me demande si la première remigration ne devrait pas viser les contre-élites qui sont à la manœuvre, qu'elles soient juridiques, politiques, institutionnelles, enfin, sur le plan national ou européen, parce que vraiment, leur ennemi, semble-t-il, en tout cas c'est valable dans le monde occidental ou dans le monde européen et dans le monde européen, leur ennemi est au premier chef leur propre peuple. On voit d'ailleurs à quel point contre ce peuple-là, les mesures les plus drastiques, les plus restrictives, les plus tatillonnes, les plus répressives sont systématiquement appliquées, quand pour le reste, en effet, c'est-à-dire pour l'autre, les autres peuples, là c'est le plus grand libéralisme. On assiste à un tournant pour une part illibéral, mais pas au sens hongrois évidemment.
Merci beaucoup Rémi Soulier, merci beaucoup Renaud Camus, et voilà, j'espère que tous les gens liront Décolonisation et auparavant les ouvrages qu'ils précèdent.
Merci.
Merci à vous.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.